Sixième partie. Le triomphe du libre arbitre. Chapitre 1. Les deux femmes prirent place autour de la petite table ronde destinée aux occupants de la chambre à l'heure du petit déjeuner, entre un café, une viennoiserie et le journal du jour. Une scène banale, à laquelle l'éclairage tamisé du lampadaire ne donnait aucun caractère dramatique. Les paroles de Jane, lorsqu'elle exposa la réalité du complot arcadien à sa compagne, échappait pourtant à la banalité. Charlène l'écouta sans l'interrompre, comme si elle avait su dès les premiers mots de Jane que son récit, aussi fou soit-il, était l'expression de la vérité. Charlène avait grandi dans la rue, une école exigeante dont on ne sortait pas diplômé sans acquérir un détecteur de mensonges très développé. En outre, son respect pour Dougal Traherne l'incitait à suivre ce dernier dans son appréciation des autres, et Dougal n'avait pas fait mystère de son attachement à Jane. Restait à savoir si Dougal aurait accepté la triste tâche que Jane comptait confier à Charlène. La vie avait imposé à Dougal, dès l'âge de 10 ans, de graves traumatismes qui lui avaient permis de mesurer l'importance du libre arbitre. En outre, à la suite de l'épopée qu'il avait vécue aux côtés de Jane dans le ranch de Berthold Chenek, il avait avoué à la jeune femme qu'il l'aimait comme sa propre fille, et quel père d'adoption aurait accepté d'inoculer à sa fille un mécanisme de contrôle. Contrairement à Dougal, à qui l'existence n'avait pas accordé d'enfant, Charlène Dumont avait eu la joie de donner naissance à une fille et un fils. Le destin les lui avait ravis à un an d'intervalle. Larissa avait succombé à un cancer à l'âge de 5 ans, tandis que Jérôme était fauché par une balle perdue lors d'une confrontation entre gangs rivaux. Charlène, qui n'aurait pas hésité un seul instant à échanger sa vie contre celle de l'un ou l'autre de ses petits, ne pouvait que comprendre la démarche de Jane.
« Mais enfin, ma chérie, » dit-elle pourtant, « il ne s'agit pas de mourir pour votre petit garçon, mais de vivre une mort permanente jour après jour, jusqu'à la fin.
Pas si cela se passe comme je le crois. Et si je me trompe, eh bien Vikram pourra me donner n'importe quel ordre, y compris celui de me suicider afin de m'épargner une longue vie de servitude. »
Charlène ferma les yeux et secoua la tête.
« Vous en parlez avec un tel naturel. Ce serait charger la conscience de ce garçon d'un fardeau bien lourd.
C'est mal de ma part d'exiger de lui un tel sacrifice, mais il comprendra. Vikram a du cœur. Il éprouve le besoin d'expier certaines de ses actions. Il verra ce fardeau comme une forme de pénitence. »
Charlène haussa les sourcils.
« Vous ne lui avez pas encore parlé ?»«
Non. Je sais déjà que si je lui explique avant l'injection, il voudra me détourner de ce projet. Le temps nous est compté. Je sais aussi que mes adversaires, grâce aux ressources dont ils disposent, ne tarderont pas à me retrouver. Mon intuition me souffle que je suis en train de jouer ma dernière carte, et mon instinct ne m'a jamais trahi. »
Charlène offrit sa main à Jane. Celle-ci la prit dans la sienne en serrant les paupières. Les deux femmes restèrent unies dans ce geste un long moment. Jane rejoignit en pensée sa mère et son mari, aussi présents dans son cœur que s'ils étaient vivants. La mort n'emportait jamais que les corps. Elle n'avait aucun pouvoir sur l'indicible. Jane se remémora les vers de Dylan Thomas que Nick lui avait récités un jour, à la veille d'une opération commando à l'étranger. « Quand bien même ceux qui s'aiment mourraient, leur amour resterait intact, échappant à l'emprise de la mort. » Elle rouvrit les yeux.
« Je m'en veux de vous demander votre aide, Charlène. S'il s'agissait d'une piqûre ordinaire, je me débrouillerais toute seule, mais le processus est complexe. Il me faudrait 3 mains et je n'ai pas le droit à l'erreur. J'ai bien conscience que ce ne sera pas facile. »
Charlène serra une dernière fois la main de Jane dans la sienne avant de la libérer.
« Agir de façon juste n'est jamais facile. Vous ne m'apprenez rien. »
Jane posa les yeux sur la glacière dont l'écran de contrôle indiquait une température intérieure de 8 degrés.
Les nanomécanismes doivent impérativement être conservés à une température inférieure à 12 degrés. J'imagine que les ampoules n'ont jamais dépassé ce seuil depuis que je les ai confiées à Dougal, il y a 3 semaines.
Pas à ma connaissance. Son réfrigérateur était réglé sur 2 degrés
et l'écran de la glacière n'a jamais affiché plus de 5 degrés depuis que j'ai quitté San Diego. Il est heureux qu'on n'ait pas attendu une semaine de plus. Je m'étonne d'ailleurs que la température ait augmenté aussi vite. Jane souleva le couvercle de la glacière d'un air inquiet. Elle écarquilla les yeux en découvrant sous les packs de glace une trousse de toilette contenant une grande quantité de petits cailloux. Elle reconnut le gravillon de la petite route empruntée par le camping-car près de Tonopah.